France Culture. France Culture. Les midis de culture. Chloé Cambrelin.
Bonjour et bienvenue dans les midis qui font étape au Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence aujourd'hui. Avec nous dans quelques instants, Sébastien Dossé, qui à la tête de son ensemble Correspondance porte la Callisto de Francesco Cavalli sous le ciel étoilé du théâtre de l'Archevêché. Puis, après le journal, rendez-vous avec la compositrice Sivan Eldar, qui associe à la chanteuse improvisatrice Ganavia Doraiswamy, présente The Nine Jewel Deer en création mondiale. Bonjour Sébastien Dossé.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en direct des studios d'ici Provence à Aix. Alors rappelons pour commencer que cette édition 2025 est dédiée à Pierre Audi, directeur du festival décédé brutalement en mai dernier. Il nous disait ici, il y a un an, que la force de ce rendez-vous international d'art lyrique était de proposer des musiques différentes, des propositions différentes, mais qui parlent la même langue, celle d'une très grande qualité artistique. Il nous disait aussi que le rôle de ce festival était de faire participer le public à l'histoire de l'opéra, de ses débuts il y a 400 ans à la création d'aujourd'hui. Nous en avons l'illustration, je crois, avec les deux productions dont nous allons parler ce midi. Et si je commence ainsi, Sébastien Dossé, outre l'hommage, c'est aussi bien sûr parce que la volonté de monter cette Callisto, opéra de 1651 à Aix, dans une mise en scène de Jetske Minson, est le fruit d'échanges que vous avez pu avoir avec Pierre Audi. On sait que l'opéra, c'est du temps long. Alors, comment est né ce projet? C'est vous qui lui avez proposé, je crois.
Oui, Pierre, c'est quelqu'un qui faisait confiance beaucoup aux artistes. Et après qu'on ait fait ce premier projet en 2021 au festival autour de Monteverdi, moi j'avais envie de poursuivre cette aventure italienne parce que l'ensemble Correspondance, on est plutôt allé étiqueté autour de la musique française du XVIIe. Et j'ai trouvé qu'à Aix, c'était une très bonne porte d'entrée vers tout ce répertoire italien. Et après ce premier projet qui avait bien marché, j'ai parlé de cette œuvre-là à Pierre et qui a dit effectivement. En plus, on a jamais eu la Callisto à Aix et c'est devenu au fil des dernières décennies une des œuvres marquantes du XVIIe italien. Donc l'aventure est partie en 2021 et puis elle se concrétise après sa disparition en 2025.
Oui, en 2021, vous aviez proposé avec les Correspondances Combattimento la théorie du cygne noir autour de Monteverdi en effet, mais avec déjà du Cavalli dedans, je crois. C'est lui, Pierre Audi, qui a souhaité que vous jouiez au théâtre de l'Archevêché. Pour décrire donc, c'est en extérieur, même s'il y a un cadre de scène, c'est un lieu vraiment emblématique du festival, avec un peu plus de 1200 places. Vous n'aviez pas imaginé au départ être là.
Non, moi j'avais proposé cette œuvre-là justement parce que j'avais trouvé qu'il y avait une adéquation entre ce lieu que j'ai tant aimé, le théâtre du Jeu de Paume, qui est une petite bonbonnière de quelques centaines de places, et j'avais fait le lien avec cette œuvre de Cavalli qui avait été créée en 1651 dans un théâtre presque équivalent, peut-être un peu plus petit même, à Venise. Et donc c'était cette évidence. Et puis voilà, c'est je pense que c'est aussi quelque chose dont Pierre était capable, c'était de créer des petits courts-circuits, des choses qui peuvent parfois sembler comme une mise en danger, et puis finalement dont on s'aperçoit a posteriori que c'était une très bonne intuition et que c'était un challenge finalement qui, en l'occurrence moi, m'a fait avancer parce que j'ai dû travailler tout autrement sur cette œuvre-là pour la rendre compatible avec ce lieu si différent qu'est celui de l'Archevêché.
Alors nous allons parler bien sûr. Francesco Cavalli a donc vécu entre 1602 et 1676. Nous sommes donc au début de l'opéra en tant que genre, disons. Deux de ses opéras ont déjà été donnés au Festival d'Aix lorsque le directeur était Bernard Faucroule, mais pas la Callisto, vous l'avez dit, qui est donc arrivée cet été. Vous, Sébastien Dossé, vous avez, je crois, un rapport ancien à cette œuvre, au-delà de votre intérêt, de votre amour que vous avez rappelé pour la musique du XVIIe, qui est le cœur du répertoire de l'ensemble Correspondance que vous avez fondé il y a plus de 15 ans. Cette œuvre-là, la Callisto, qu'est-ce qu'elle représente pour vous dans votre itinéraire et vos affinités?
Ben, alors moi je suis pas d'une famille de musiciens, je suis pas arrivé de façon évidente à la musique, mais alors pour raconter une petite histoire personnelle, mais quand j'étais à Rennes en Bretagne dans les années 90, il y avait en plein centre près du Parlement, il y avait un disquaire. Et cet homme-là m'a fait découvrir un nombre de musiques incroyables parce que je venais chaque semaine dépenser tout mon argent dans les disques. Je donnais des cours de piano alors que je savais à peine en jouer. Et tout cet argent passait dans les disques et ça passait par son choix. Comme s'il avait été l'éditeur qui m'avait fait connaître énormément de choses, de musique contemporaine, de musique baroque, etc. Et donc c'est lui qui m'a proposé un jour d'entendre cet opéra. Je pense que ça fait partie des disques que j'ai le plus écouté dans cette version de René Jacobs, qui est somptueuse. Et ça a été une production de légende aussi, que j'ai jamais vue en vrai. Mais voilà, c'est une œuvre qui m'accompagne depuis, je sais pas, j'ai 17 ou 18 ans. Donc ça fait quelques années maintenant. Et de Cavalli, encore une fois, même si l'ensemble s'est beaucoup concentré sur ses 15 premières années d'existence sur le répertoire français, il y a toujours eu du Cavalli quelque part. Il y en a eu dans le Ballet Royal de la Nuit. Il y en a eu dans des programmes de musique sacrée. Donc c'est un compositeur dont moi je me sens très proche parce que je trouve qu'il y a dans son langage, il y a une évidence qui parle aujourd'hui à quelqu'un de 2025 comme moi. Et voilà, je pense qu'on c'est le début de quelque chose qui va continuer parce que là, la Calixto, elle confirme que pour moi, c'est un compositeur majeur dans mon parcours.
Ouais. Alors, ce qui est toujours passionnant, Sébastien Dossé, c'est que vous faites un immense travail autour des œuvres que vous nous faites souvent découvrir ou redécouvrir. Là, la Calixto a été rejouée à partir des années 1970. Vous avez cité l'enregistrement de René Jacobs, donc on peut pas dire que c'est un opéra qui sort aujourd'hui de l'oubli. Néanmoins, vous avez travaillé sur la partition durant plusieurs années. Alors, qu'avez-vous fait? Qu'aviez-vous en fait besoin de faire?
Alors, il y avait besoin, en tout cas, de se dire l'effectif de la création, qui est dans un contexte très particulier, qui est un petit théâtre vénitien privé, donc avec une contrainte financière qu'on peut pas imaginer aujourd'hui, a amené Cavalli à faire la création de cette œuvre dans certaines conditions. En l'occurrence, d'avoir seulement 6 musiciens, dont lui, en fosse, et les solistes requis par la partition. Ce qui est tout à fait a priori impossible de faire dans un théâtre comme l'Archevêché de plusieurs centaines de places, mais voire au-delà de 1000, je crois que c'est 1400, en plein air, avec une scène immense. Donc la question, c'est comment est-ce que on amène une œuvre comme celle-là dans un contexte aussi différent que celui de sa création. Et c'était amusant parce que même si ça m'a beaucoup déstabilisé quand Pierre me l'a proposé, j'ai assez vite bouquiné, je me suis assez vite renseigné sur la manière dont Cavalli lui-même cherchait à tout prix à faire circuler sa musique. C'est un des compositeurs qui s'est de l'histoire de la musique baroque qui s'est jamais cantonné au service d'un prince ou à un contexte donné, mais qui a toujours cherché à faire jouer sa musique le plus largement possible. Et de fait, il a réussi parce qu'on l'a joué à Gênes, on l'a joué à Rome, on l'a joué à Paris, on l'a joué dans beaucoup d'endroits en Europe. Et ce qui lui a assuré de son vivant une immense reconnaissance. Et quand Cavalli prend une œuvre pour l'emmener ailleurs, alors il prend en considération, évidemment, parce qu'il n'a pas le choix, cet ailleurs. Cet ailleurs, ça veut dire des nouvelles contraintes, mais aussi d'autres moyens. Et à chaque fois, il opère des transformations de ses œuvres en fonction de tout ça. Donc, quelque part, ça a justifié l'idée de retravailler l'œuvre en fonction de contexte. Donc ça veut dire pour moi davantage de musiciens, simplement parce que le lieu est beaucoup plus grand. Alors bien sûr qu'on est en 2025 et que le contexte de 2025 pourrait justifier qu'on fasse avec les instrumentistes d'aujourd'hui, mais je me suis fixé comme contrainte de me mettre dans la peau d'un compositeur du XVIIe siècle avec les moyens d'un compositeur du XVIIe siècle. Donc pas de marimba ou de clavier électronique, mais en revanche des instruments qui étaient disponibles à cette époque, et que je choisis d'inviter pour cette production. Donc, qui dit plus d'instruments veut dire que la partition, qui était conçue essentiellement pour une ligne de basse et puis les chanteurs avec parfois deux violons pour accompagner le chanteur très célèbre qui était Cerretti à l'époque, ça veut dire que ces deux violons deviennent des parties d'orchestre avec davantage avec des parties d'alto, et puis avec davantage de possibilités de timbre, avec des instruments avant notamment.
Donc c'est une orchestration que vous avez faite d'une certaine manière.
Alors Pas tout à fait, non. Parce que quand on dit orchestration, ça fait penser à de la musique peut-être plus tardive, oui. comme Ravel pourrait orchestrer une pièce pour piano. Là, c'est davantage une question de réécriture, parce qu'il y a des lignes de contrepoint qui n'existaient pas et que j'ai réécrites. Mm. Donc voilà, il y a à la fois une histoire de composition presque, mais davantage à la manière d'un restaurateur plutôt que de vraiment une composition contemporaine. Et puis ensuite une question effectivement de timbre, mais je dirais pas orchestration, parce que finalement ce travail d'orchestration on le fait toujours dans la musique baroque. Une partition pour le XVIIe siècle, c'est un état d'une œuvre, mais c'est pas l'œuvre close comme le serait une symphonie au XIXe siècle qui règle exactement quels instruments jouent à quel moment. Pour une œuvre du XVIIe siècle, on a très rarement ces instruments qui sont indiqués. Donc on fait toujours ce travail-là avec les musiciens quand on aborde une œuvre comme ça.
Ce qui est intéressant là, avec ce que vous nous dites, c'est que en fait ce qu'on appelle l'historiquement informé n'est pas une rigidité en fait.
Non, parce que cette rigidité, elle comment dire, c'est la photographie de certains lieux à certaines dates, à certains moments d'une œuvre. Donc on sait très bien que pour la création de la Callisto en 1651, c'était 6 instrumentistes et 12 chanteurs. Est-ce que ça veut dire que éternellement cette œuvre est cantonnée à la manière dont elle a été créée? Je ne pense pas, parce que encore une fois, Cavalli, de son vivant, dès lors qu'il a l'occasion de rejouer une œuvre ou de créer dans différents contextes, s'adapte à ces contextes. Donc la question du dogme ou de quelque chose de figé, finalement, n'est pas très scientifique et en définitive n'est pas très utile pour les musiciens. Alors, c'est toujours une question de curseur, c'est-à-dire que si une œuvre est ouverte et si elle est mobile, disons, voilà, la question du curseur, du dosage, elle est très importante et c'est vrai qu'elle ressort de l'interprète. Et c'est aussi pour ça que c'était important pour moi d'être très documenté, très connaisseur et de tous les contextes possibles et de la manière d'écrire d'un compositeur à l'époque, pour ne pas m'autoriser n'importe quoi, et vraiment être quelque part entre le scientifique, le restaurateur, le musicien, l'interprète, pour proposer quelque chose qui soit voilà, qui soit a priori cohérent pour le lieu dans lequel on joue aujourd'hui.
Extrait de la Callisto avec Laurane Oliva dans le rôle titre. Alors, le livret est de Giovanni Faustini, inspiré des Métamorphoses d'Ovide. Jupiter veut séduire la jeune Callisto, dévouée à la déesse Diane, qu'elle aime éperdument. Jupiter décide alors d'emprunter les traits de Diane pour séduire Callisto et cela fonctionne. Junon comprend et se venge non pas sur son mari infidèle, mais sur la pauvre Callisto qu'elle transforme en ours avant que Jupiter la transforme lui finalement en étoile, en constellation. Ça, c'est le noyau, on va dire, mais il y a en parallèle l'histoire de Diane, grande gardienne de la chasteté, mais en réalité éprise d'Endémione, au grand désespoir de Pan, qui cherche lui aussi à se venger de son rival. Sébastien Dossé, de prime abord, on peut être surpris par la liberté de ce livret.
Oui, c'est étonnant de voir comment une histoire qui remonte à la nuit des temps, parce que probablement Ovid en a fait une mise en forme, mais c'est une histoire qui était dans la tradition orale, qui arrive à Venise au XVIIe siècle, qui arrive à Aix en 2025. Comment cette histoire, elle est pleine, tellement pleine d'humanité qu'elle nous parle toujours aujourd'hui. Et c'est amusant de voir l'œil que la société pose sur l'interprétation à un moment donné, et effectivement de voir que Faustini au XVIIe siècle à Venise raconte cette histoire avec une liberté de ton incroyable, avec parfois une modernité qui nous semble inimaginable, et aussi avec une comment dire quelque chose qui raconte la liberté des aussi des mœurs, c'est-à-dire que ça, par exemple, ça ne choque personne dans la Venise du XVIIe siècle de voir Callisto résister à Jupiter, même assez vertement, et à la proposition de Diane se réjouir complètement. Finalement, ça dit peut-être que la société vénitienne, sous certains aspects, était peut-être plus libre et moins puritaine que la nôtre aujourd'hui.
Oui, ou en tout cas aussi moins, comment dire, dans des stéréotypes qu'on pourra plutôt voir revenir un peu après, en fait, dans l'histoire de l'opéra. Là, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, donc la Callisto chante la liberté. Nous sommes encore relativement au début. Hein. Elle vient de congédier Jupiter, qui reviendra peu après sous les traits de Diane, qui au passage est sa fille hein, à Jupiter. Jetkeminsen a transposé la mise en scène dans le 18e siècle des liaisons dangereuses. En effet, vous le disiez, Sébastien Dossé, il est clair que Callisto est agressée, forcée. Il est clair aussi qu'elle dit non à Jupiter. Et il est clair qu'elle est totalement amoureuse de Diane. Voilà, c'est très libre comme livret. Mais il y a aussi le regard de la metteuse en scène ici qui contribue peut-être aussi, même si elle ne plaque pas notre époque, puisque donc elle l'a mis au 18e siècle. Est-ce que justement le fait que ce soit pas à gros traits, c'est-à-dire que on ne veuille pas absolument mettre ça dans notre 21e siècle, contribue finalement justement aussi à faire résonner la modernité de cette intrigue?
Oui, et puis je pense que en tant que spectateur, on a toujours besoin d'une distance par rapport à ce qui se passe sur un plateau, et donc j'ai trouvé que son idée de simplement reprendre le formant de cette histoire et d'en voir une autre illustration un siècle plus tard dans un autre pays, j'ai trouvé que ça fonctionnait vraiment bien, parce que il y a ces mêmes interactions entre les personnages, on retrouve les ingrédients de ces relations entre les personnages. Alors elle a beaucoup évoqué Chauderlot de la Clos pour les liaisons dangereuses, mais c'est vrai que les deux histoires sont très parallèles, et je trouve que ce qui fonctionne bien aussi est la à la fois le raffinement parfait de cette esthétique du grand siècle, du 18e siècle, du siècle des Lumières, parisien, français, avec une forme de perversité qui colle très bien avec ce livret et cette histoire.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la metteuse en scène, vous avez fait des choix qui sont aussi des choix musicaux, comme le fait de confier au fantastique chanteur Alex Rosen le double rôle de Jupiter et de Jupiter déguisé en Diane. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce choix et nous dire en quoi il fait sens à la fois d'un point de vue dramaturgique et musical ?
Oui, alors il y a une petite incertitude sur qui chantait ce rôle de Jupiter transformé en Diane, parce que les indices qui nous restent de cette époque montrent que la chanteuse qui faisait Diane à l'époque était énormément payée par rapport aux autres. Alors on en a déduit que la vraie Diane finalement apparaissait sous ses traits, mais qu'elle représentait Jupiter. En définitive, les musicologues ont montré que c'était peut-être deux productions qui étaient mêlées, et que ce seul argument ne justifiait pas le fait que Diane était aussi Jupiter transformé en Diane. Donc, en voyant que le chanteur à l'époque qui chantait Jupiter avait gardé sa voix d'enfant parce qu'il avait été petit chanteur, il y a cette possibilité de demander à un chanteur aujourd'hui de baryton. S'il en a les possibilités, ils sont rares à les avoir, et c'est le cas d'Alex Rosen, magnifiquement d'ailleurs, de pouvoir chanter à la fois avec sa voix d'homme, mais aussi, pour un bon tiers de la partition, de chanter en voix d'enfant. Donc c'est
en voie de tête, là, en l'occurrence.
En voie de tête. Et donc, voilà, un même chanteur a deux identités dans cette histoire. Et je crois que sur le plan théâtral, ça ajoute beaucoup, parce que pas seulement pour amuser le public, parce qu'il y a toujours une réaction assez assez naturelle quand on entend un homme chanter en voix de femme, d'en rire. Mais en définitive, ça rajoute toute la tension nécessaire à cette histoire. Et puis, je crois qu'Alex l'a aussi très bien dosé, parce que il s'agit pas d'en faire quelque chose de ridicule, sinon on se demanderait pourquoi Callisto croit de façon évidente à cette métamorphose. En définitive, je crois que le dosage qu'il opère est relativement subtil et qui permet de comprendre pourquoi Callisto marche dans cette intrigue.
Oui, et d'ailleurs, effectivement, le premier réflexe du public, c'est la première fois qu'il le fait, qu'il se transforme en Diane, c'est de rire un peu. Mais ouais. En fait, après, ça s'arrête, parce que après, ce qu'on voit surtout, outre la performance vocale, hein, quand même, effectivement, de ce chanteur, c'est à quel point ça sert, encore une fois, la dramaturgie.
Complètement. Et puis ça donne à ce personnage une force, une densité qui aussi est un explique l'emprise qu'il opère sur Callisto. Donc je trouve que ça donne encore une fois une densité très forte et ça alimente cette tension du spectateur vers la scène.
Alors à l'image là de ce qu'on vient de dire, il y a du comique et du tragique dans cet opéra qui commence quand même par un prologue dans lequel on entend ce que le destin décide et décrète n'a pas besoin de justification. Il est quelque part dès le début décidé que le destin de Callisto est de rejoindre les étoiles, et en même temps on peut aussi décider, comme vous l'avez fait, qu'elle ne subit pas entièrement, sans pour autant tordre l'œuvre. Alors ça, on laissera aux spectateurs, spectatrices, le soin de découvrir. Mais ce qui est sûr, c'est que le personnage de Callisto passe par beaucoup d'états, d'émotions différents. C'est un opéra qui avance beaucoup. Sébastien Dossé, et ça participe peut-être au fait qu'on ne voit pas trop passer les un peu plus de 3 heures. Et là aussi, ça s'entend. Peut-être, et c'est une manière de revenir aussi vraiment sur la musique de Cavalli, et peut-être pourquoi elle vous intéresse et qu'elle vous plaît depuis aussi longtemps, c'est que elle porte en elle-même une dramaturgie, c'est-à-dire que ces états différents des personnages, ils sont pas seulement portés par le texte et par le côté théâtral de la chose, on les entend aussi musicalement.
Absolument, je pense que le Cavalli vient à un moment où toute la grande révolution musicale du XVIIe siècle, elle vient de s'opérer sur la génération d'avant. On a inventé l'idée de parler en musique, on a inventé l'idée du théâtre dans cette parole mise en musique. On a inventé tellement de nouvelles choses que il est né dans ses inventions. Donc il est vraiment comme quelqu'un qui parle cette langue depuis toujours. Et je trouve que cette facilité, on la retrouve dans l'écriture musicale. C'est-à-dire que, par exemple, dans la Callisto, on n'a jamais des pages et des pages de récitatif. Mm-mm. On a toujours au milieu d'un récitatif, même 20 secondes d'une ligne mélodique magnifique qui met en valeur la voix. Et donc, je trouve que tout ça maintient aussi une tension très forte de laquelle on ne décroche pas. Ensuite, je pense que vous avez raison dans l'idée de dire que on comprend le sens du théâtre de Cavalli à travers sa musique. Par exemple, sur ce personnage de Junon qui pourrait être très stéréotypé d'une femme jalouse, colérique, emportée, comme on la représente dans la majorité des opéras à cette époque-là. C'est un rôle ici beaucoup plus complexe, et c'est la musique qui le dit, parce que sa première apparition, effectivement, est celle de qu'on attend, de cette femme trompée et amère. La deuxième, elle invoque des démons, elle prépare la punition de Callisto, et elle fait vraiment... La musique dit qu'elle fait penser à Médée, à ce personnage d'une magicienne, donc lui donne une autre dimension. Et puis, sa dernière intervention, c'est quelque chose qu'on a construit avec Anna Bonita Tibus, qui est l'interprète de cette Junon incroyable. Et son dernier texte parle des femmes. Alors, je pense que ça se joue à pas grand-chose. Peut-être que à peine plus vite, ou peut-être même deux fois plus vite, cette petite mélodie pouvait faire rire le public vénitien d'une femme qui se plaint que son mari ne rentre pas, ou quand il rentre, il s'endort tout de suite. Bon, déjà, le texte a une liberté de ton qui est assez incroyable, mais on a choisi d'étirer complètement ce grand air et pour faire à la fin de l'opéra un moment très spécial pour cette Junon qui est la voix de toutes ces femmes. Et je trouve que ça donne aussi à tout l'opéra une force et une densité, alors que Junon est quand même un personnage assez sulfureux, comme vous le disiez. Devant une histoire de tromperie, elle cherche pas à se venger de son mari, mais elle punit son amante, ce qui est complètement improbable. Mais elle est aussi la voix de toutes ces femmes, donc ça lui donne une complexité que souligne Cavalier avec sa musique, qui, je crois, est très complémentaire de ce que raconte le livret.
Alors, on ne va pas entendre Junon, mais un autre extrait qui est un peu plus vers la fin de l'opéra par rapport à ce qu'on a entendu au début, c'est la Callisto en duo avec Jupiter. Laurane Oliva et Alex Rosen, donc formidable Callisto et Jupiter. Alors, il y a donc l'ensemble Correspondance, qui est votre ensemble, Sébastien Dossé, vous jouez le clavecin aussi pendant le récitatif. L'ensemble est un peu surélevé pour des questions d'acoustique dont vous avez parlé au début, et du coup aussi on les voit. Ces musiciens-là, ils sont une grosse trentaine, vous les connaissez bien sûr très bien, ça n'était pas forcément en revanche le cas pour tous les solistes. Je crois par exemple que Laurane Oliva, vous vous êtes rencontrés sur cette production. Ce genre d'aventure, c'est aussi quand même une question de se trouver. Il y a une entente qui doit s'opérer à la fois artistique et humaine. Avant de terminer, pouvez-vous nous parler de cet aspect des choses ?
Oui, c'était quelque chose de très nouveau pour moi parce que depuis 15 ans, je travaille en troupe, on pourrait dire. C'est que les musiciens qui sont là parfois depuis le début, mais il y a toujours une relation de long terme qui est pas du tout celle qu'on retrouve dans le monde de l'opéra. Donc c'était pour moi c'était une étape importante parce que on a constitué cette petite communauté il y a 2 ou 3 ans avec Julien Benamou qui s'occupe du recrutement de tous ces chanteurs pour le festival. Donc certains comme Paul-Antoine Benos que je connaissais de pour avoir déjà travaillé avec lui, et puis d'autres que j'ai effectivement rencontré le premier jour des musicales. Donc c'était une très très chouette expérience dans le sens il faut réussir à travailler comme je l'aime, c'est-à-dire en troupe, en communauté, mais réussir à construire cette communauté pour qu'elle soit déjà soudée lors de la première semaine. Et voilà, ça s'est vraiment hyper bien passé parce que je crois qu'on est sensible, et Julien et moi, dans le choix des chanteurs, à la fois bien sûr aux qualités musicales, aux qualités vocales des uns et des autres, mais aussi aux qualités humaines. Et je crois que c'était aussi une belle réussite parce que Jetzke a trouvé en arrivant une troupe déjà très solidaire, très construite, avec des profils complètement différents, parce que Laurane est une très jeune chanteuse magnifique et incroyablement avancée quand on considère son âge, 24 ans. Et puis il y a des chanteurs beaucoup plus expérimentés. Voilà, c'était constituer cette communauté très vite. Et en fait, j'ai adoré ce travail-là parce que c'est une manière d'opérer un travail artistique qui est assez différent de ce que je fais d'habitude.
Et on sent effectivement vraiment que vous avez réussi à transmettre cet esprit de troupe à tout le plateau. Un grand merci à vous, Sébastien Dossé, la Callisto de Francesco Cavalli, mise en scène de Jetske Minson. C'est donc au Festival d'Aix jusqu'au 21 juillet au Théâtre de l'Archevêché, puis en tournée notamment à Nantes fin novembre et au Théâtre des Champs-Élysées à Paris au mois de mai. Je précise aussi que nos amis de France Musique l'ont diffusé hier soir et qu'il est donc possible de réécouter cette captation sonore. Bonne fin de festival et merci encore. Et merci à également à l'équipe d'ICI Provence qui vous a accueilli et qui va accueillir à présent la compositrice Sivan Eldar, que nous retrouvons à 12h45 pour évoquer la création de The Nine Jewelled Deer au programme du Festival d'Aix également en ce moment. Ce sera juste après le journal qui arrive.
France Culture. Les midis de culture. Chloé Cambrelin.
Les midis consacrés aujourd'hui au Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence. Nous commencions tout à l'heure à midi en citant Pierre Audi, directeur du festival décédé en mai dernier, qui disait que cet événement avait vocation à couvrir 400 ans d'opéra. Et après avoir parlé avant le journal de la Callisto, de Cavalli, nous évoquons jusqu'à 13h une création mondiale produite par le Festival d'Aix avec la Fondation Luma à Arles, The Nine Jewelled Deer. Les premières représentations ont d'ailleurs eu lieu à Luma la semaine dernière. Cette semaine, c'est au Théâtre du Jeu de Paume à Aix. Bonjour Sivan Eldar.
Bonjour Claire, merci pour l'invitation.
Merci à vous d'être avec nous en direct des locaux d'ICI Provence. Vous êtes compositrice et êtes donc à l'origine de cette œuvre de Nine Jewelled Deer, la biche aux neuf bijoux, avec la musicienne Ganavia Doraiswamy. Peter Sellars a travaillé avec vous, il signe la mise en scène. Il y a toute une constellation d'artistes autour de ce projet atypique. Et c'est pourquoi nous voulions en parler avec vous, même s'il reste peu de dates. Au départ donc, il y a votre rencontre, il y a plusieurs années, avec la chanteuse multi-instrumentiste Ganavia Doraiswamy, qui a grandi entre l'Inde et les États-Unis. Comment en êtes-vous arrivée à travailler ensemble sur ce projet qui est un long poème musical d'inspiration indienne?
Oui, en fait, c'était une rencontre musicale. On s'est rencontrés pendant une résidence. Elle était en train de travailler sur un album, sur un premier opéra. Et on était très attirés par les mondes qui sont, on peut dire, différents, parce que moi je viens de vraiment la musique contemporaine, l'écriture de partitions et la musique improvisée. Mais comme on a trouvé plein de choses en commun, et on a commencé une discussion de qu'est-ce qu'on peut créer ensemble. On ne savait pas encore si ça serait un opéra ou quelque chose d'autre. On savait que ça serait avec Peter, qui est quelqu'un qui était très important pour nous deux. Et ça a évolué pendant des ateliers qu'on a fait pendant 3 ans. Donc c'est assez organique comme processus.
Alors, vous terminez votre premier opéra, vous disiez quand vous l'avez rencontré, ce premier opéra s'appelle Like Flesh, il évoquait, je le dis très rapidement, la destruction du vivant avec un livret de Cordelia Lynn, d'après les Métamorphoses d'Ovide. Il y avait déjà de l'électronique, il y a une place importante dans votre travail, Sivan Eldar. Là, donc, Ganavia Doraiswamy chante elle-même sur scène, de même Karuna Seyram, compositrice et chanteuse de musique carnatique, donc musique classique indienne issue de l'Inde du Sud. Avec elle, il y a 6 autres musiciens, musiciennes, dont un expert en réalisation informatique aux commandes de programmes développés à l'IRCAM et qui est comme les autres solistes sur scène. En l'occurrence, ils sont assis au sol sur des tapis ou des coussins ou sur le côté de la scène lorsqu'ils ne jouent pas. Au fond, il y a en transparence les œuvres de la plasticienne Julie Méretou. Et au cœur de cette œuvre, il y a 3 inspirations, notamment celle qui donne son titre à l'œuvre, La biche aux 9 bijoux. C'est un conte. Quel est ce conte, Sivan Eldar? Et est-ce que c'est cette matière-là qui vous a servi de point de départ?
Non, en fait, le conte est arrivé plus tard. Au début, c'était vraiment le travail sur des références musicales. Et il faut dire que, oui, c'est un opéra pour 8 solistes, et c'était l'idée depuis le début, aussi l'idée de Peter, mais aussi avec moi et Ganavia, que, par exemple, comme Like Flesh, qui était un opéra un peu plus traditionnel, on peut dire pendant le processus, c'était d'abord livré, après la musique, après le chef d'orchestre, etc. On voulait vraiment créer quelque chose de collectif, et sur tout le monde, que tout le monde soit au plateau, et qu'on va vraiment faire le casting de chaque personne comme des invitations familiales presque. Et c'est pour ça que on dit à la fin, c'est un opéra pour 8 solistes. J'ai invité aussi Augustin Muller de l'IRCAM, avec qui je collabore depuis longtemps, comme soliste. Et c'était ça qui est vraiment intéressant dans ce projet, c'est que À la fois, c'est un opéra, mais en même temps, ça vit entre l'opéra et le théâtre. Ça veut dire qu'on a aussi cette idée d'écriture sur le plateau. Mmh. Et c'est pour ça que ça fait vraiment une œuvre collective, où on a commencé, moi et Ganavia, avec des rencontres musicales, et pas avec le texte, qui est arrivé plus tard, avec Lauren Groff, avec Ganavia. Et on a vraiment travaillé sur cette idée de... Moi, j'arrive avec des matériels, elle arrive avec des matériels musicaux. Et l'histoire de Serre en offre bijoux, biche en offre joyeux, il y a des différents
traductions, ouais,
en français. C'était comme le fil, un peu dur, c'est le fil rouge. En voilà. Fait, ça arrivait avec Peter, qui a une histoire assez longue avec les gros de Don Juan, qu'il allait aussi avec Julie Meritou, avec Ganavia. Et ça arrivait, en fait, de la musique. Il a écouté, on a fait ces ateliers ensemble, il a écouté et il a dit, en fait, ça, c'est la façon de tisser une histoire avec des moments musicaux. Et je pense finalement, c'est exactement ça, l'opéra, on a des tableaux musicaux et on a cette histoire de biche qui est vraiment très très métaphorique à la fin. En fait, ça nous permet, c'est une méthode de tisser plein d'histoires différentes, mais avec ce fil rouge de la biche.
Alors peut-être quelques mots quand même de ce fil rouge, de ce conte, de cette biche, qu'est-ce qu'il nous raconte ?
Bah, en fait, c'est une histoire à la fois de trahison, mais en même temps aussi de la compassion. Donc, on a cet homme, on a une biche magique qui est couverte par des bijoux. Donc, c'est une métaphore pour quelque chose qui est vraiment précieux, spécial, aussi très intelligent, qui est caché dans la forêt parce que elle sait que le moment où les hommes vont le voir, ils vont avoir besoin de le posséder. Et un jour, elle entend le cri d'un homme qui est en train de se noyer. Et elle arrive, elle sauve sa vie, et la seule chose qu'elle demande de retour, c'est qu'il parle à personne de fait qu'elle existe. Mmh. Évidemment, en même temps, on a le roi qui sait que cette biche existe, il propose un énorme montant d'argent pour l'attraper, et c'est comme ça qu'il a cet conflit lui-même. Est-ce qu'il va trahir cette biche pour donner cet argent à ses enfants, il a beaucoup de difficultés financières, etc. Et donc voilà, c'est ça l'histoire, en fait, de comment on a ce désir de posséder quelque chose qui est précieux, et en fait, la seule façon de le posséder, c'est de donner la liberté et de la paix. Et c'est ça qu'on voit à la fin, avec le roi qui arrive, qui essaie d'attraper cette biche, c'est un moment qui est assez violent. Et à la fin, la biche, elle pose la question, mais pourquoi tu tues ? En fait. Et ça, c'est tout le deuxième partie de l'opéra, qui est plutôt sur l'histoire de la grand-mère de Ganavia, Doraswami. Une femme qui a accueilli des gens chez elle, qui n'étaient pas nécessairement de musiciens professionnels, c'était plutôt des femmes, des gens assez vulnérables. Et donc, le deuxième partie, c'est avec le vent incroyable de Haruna Saharam, qui est vraiment une figure presque la figure la plus importante en Inde du Sud. C'est un énorme honneur de l'avoir avec nous. Et elle représente ici la grand-mère de Ganavia et la compassion qui est dans la religion bouddhiste. A gift. A dream. A gift. A dream, a dear gem, right dear, a gift, a dream, a dear gem, right dear. Sunlight, shadows, sunlight, shadows.
Donc là, c'est Haruna Saharam que nous entendons. C'est donc un extrait de cette œuvre de Nainjul Dhir, Sivan Eldar. Autour d'elle, il y a les musiciens, musiciennes. Alors, on va les citer quand même nommément, puisque vous avez insisté sur le fait que voilà, ce projet se fait avec eux et pas avec d'autres. Donc, c'est Norit Stark au violon et à l'alto, Sonia Vidar-Atherton au violoncelle, Sana Barak à la clarinette, Aidan Chisholm au saxophone, Raina Swaminata aux percussions et donc Augustin Müller à l'électronique. Alors là, c'est voilà, on entend un extrait. En vérité, il y a beaucoup de couleurs. C'est très divers au fil de l'œuvre. Peut-être quand même, comment vous avez, voilà, c'est beaucoup une histoire de rencontre. Justement, comment vous avez réussi cette rencontre? Parce que ça n'est pas une fusion, ça n'est pas non plus de l'appropriation, ce qui aurait pu être les deux risques quand même.
Oui, mais il faut dire d'abord cet extrait, c'est la première fois que Haruna chante en anglais. Et je me souviens, ça c'était le dernier atelier qu'on a fait, c'était à la Fondation Royaumont, en octobre 2024. Et Haruna, elle est venue, nous on s'est déjà rencontrés à Londres, mais elle est venue nous rejoindre pour cet atelier. Et c'était Lauren et Ganave qui ont donné deux textes, en tamoul et en anglais. Et c'était une partie, donc on avait la partie écrite pour le musicien. Et elle a commencé à improviser. Et c'était incroyable de le voir, comment elle chante en anglais la première fois dans sa vie. C'est déjà assez touchant, parce que les deux autres parties, c'est en tamoul.
Oui. Absolument.
Et cette rencontre, c'était vraiment par étapes. Donc Haruna, elle nous a rejoint un peu plus tard. On a commencé la discussion déjà avec elle en avril 2024, mais on a fait le premier atelier avec elle juste très petit à Londres pendant l'été, et après elle est venue en octobre 2024. Mm-hmm. Mais c'était comme ça avec chaque personne. Le premier atelier qu'on a fait musical, c'était à Rome, à la Villa Médicis, quand moi j'étais à résidence là-bas. Et donc c'était Ganave, elle a invité Rajan Swaminathan, avec qui il a travaillé, moi j'ai invité Augustin. Et donc chaque étape, on a ajouté quelqu'un à cette famille musicale. Et pour les questions de la partition, c'était pareil. En fait, pour chaque personne, l'écriture est différente, parce qu'on a des interprètes musique contemporaine, musique classique, donc ils ont besoin de partitions très très détaillées. Ça, c'est aussi ma formation, évidemment. Mmh. Mais par exemple, quelqu'un comme Hayden, qui vient de jazz, exactement, qui joue le saxophone, qui vient de jazz, ou quelqu'un comme Rajan Swaminathan, le percussionniste qui joue le mourdangam, c'est des gens avec qui je travaillais d'une façon très très étroite pendant beaucoup de temps. J'ai écouté beaucoup leur enregistrement. Et donc, on a travaillé ensemble comment trouver une écriture qui laisse la liberté pour eux, par rapport aux interprètes qui ont besoin de beaucoup de détails pour trouver la liberté, voilà, musicale.
Et je reviens quand même sur cette idée de ni fusion ni appropriation, parce que finalement c'est votre travail aussi à vous, de, enfin on imagine d'avoir réussi justement à faire de la place à tous ces univers, voire d'aller les chercher, mais de d'avoir quand même une écriture multiforme, mais qui traverse toute l'œuvre et qui effectivement évite ces deux écueils possibles, parce que on peut se dire voilà, deux univers très différents, oh là là, ça va être du crossover, etc. C'est pas ça.
Je peux donner un exemple. La dernière scène dans cet opéra, qui en fait au début était le premier, c'est l'épilogue. En fait, c'est une chanson de Ganavia. C'est un texte très ancien, en cachemiri. Elle s'appelle Amipana Sodras, mais c'est une chanson qu'elle a écrite Ganavia, qu'elle a présentée pendant des ateliers, de premier atelier. Et en fait, ça que je fais, par exemple, pour cette scène, c'est un dialogue entre elle et Nourit Star, donc qui joue ici le alto. Et donc on a un parti qui dialogue avec une écriture de Ganavia, et en fait ce dialogue, pour moi, c'était le début de ce projet. En fait, comment l'idée, oui, comme vous avez dit, c'est pas l'appropriation, c'est pas non plus de présenter ça, c'est un moment indien, ça c'est un moment de écriture musique contemporaine, mais c'est comment on peut créer des dialogues. Et à la fin, en fait, c'était le fonction de l'atelier, parce que d'abord il faut se rencontrer, après moi j'ai passé énormément de temps avec l'écoute, cette découverte de musique sud-indienne, mais aussi avec la lecture. J'ai lu énormément, j'ai lu le magnifique biographie de Schulman sur la langue tamoul, j'ai lu plein de poésie de Nam Alvar, de poésie mystique en tamoul. Donc je pense que c'était mutuel, on avait cette période de découverte, et pour ça il faut du temps. Et c'est pour ça que je pense que ce projet était possible, parce qu'on a passé quand même 3 ans pendant les ateliers pour vraiment connaître les autres. C'était pas juste moi, j'ai écrit une partition et on se retrouve pendant les répétitions. C'est vraiment l'histoire d'écoute mutuelle. Et aussi chaque musicien ici, c'est des musiciens qui sont très très curieux. Donc ça dépend, en fait c'est pas important de quel monde il arrive. Haruna Sarem, quand j'ai cité, c'est quelqu'un très important de la musique carnatique, mais en même temps elle aussi, c'est quelqu'un très radical qui a joué avec plein des musiciens de musique baroque, de musique rock, etc.
Et en effet, c'est toute une combinaison de rencontres possibles entre ces musiciens, musiciennes. Il y a des duos, il y a des trios, il y a des temps d'ensemble. Et voilà, ça part d'une rencontre. Et finalement, ce ne sont que des rencontres à l'intérieur même de l'œuvre. Merci beaucoup, Sivan Eldar, de Nine Juldir au Festival d'Aix-en-Provence, en coproduction avec la Fondation Luma à Arles. À voir encore donc pour 2 dates cette semaine au Théâtre du Jeu de Paume. Et à écouter le 22 juillet aussi sur France Musique. Merci à vous et merci à l'équipe des Midi, à Saïtou Ndoye, Léa Weissgruss, Laura Dutèche-Pérez, Nina Gandara, Lisa Dejode, à la réalisation Laurence Malonda, à la technique Élise Leu à Paris. Merci aux équipes d'ici Provence, en particulier à Bertrand Montandon et Pascal Morel pour l'accueil de nos invités du jour.